Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le 102.3 FM. Même si ce soir nous ne sommes pas dans les studios de Radio Centre-Ville pour une raison bien spéciale. Cet après-midi, là on est en fin de journée, ça va être une émission enregistrée que vous allez écouter à partir de 22h30. Donc il est 22h30 pour vous et il est à peu près 17h pour nous. Je disais que c'était une émission bien spéciale, tout simplement parce que nous sommes au Petit Maghreb, le souk, le fameux souk dont en fait cette année, la deuxième année de sa création. Nous sommes donc ensemble jusqu'à minuit. Nous allons avoir un tas d'invités. Nous allons tout d'abord commencer avec les principaux concernés, les instigateurs de cette ce petit Maghreb qui a été créé il y a de cela deux années maintenant. Donc les principaux instigateurs, nous allons avoir aussi madame le maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, madame Annie Sanson, monsieur Hadid qui est lui président donc du petit Maghreb, et monsieur Nasser Boudi qui est secrétaire général, président, vice-président, il est tout à la fois. C'est l'homme à tout faire du Petit Maghreb. Ce soir, c'est une émission qui a été produite et réalisée par Mourad Mahamli, à l'animation Aïssa Lamri, El Methadet et Lamine Fora. Lamine, bonsoir.
Bonsoir Aïssa, cher auditeur, cher auditrice d'Antôme. Aïssa l'a bien annoncé. Ce soir, c'est une émission, on peut dire, un pseudo-direct. On est avec vous du petit Maghreb, avec cette ambiance de souk qui a été créée donc, par l'association Le Petit Maghreb. Et ça, comme tu l'as annoncé, on va aller avec nos invités qui sont derrière cet événement aussi.
Exactement. Donc ils sont présents avec nous. Monsieur Malek Hadid, bonsoir. Madame Manisson, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Donc on va commencer par Monsieur Malek Hadid, qui est le président donc du Petit Maghreb. Monsieur Malek, Monsieur Hadid, quand vous voyez tout ce beau monde à l'extérieur, c'est une véritable procession de Maghrébins, d'abord de Québécois aussi. Tout le monde est présent avec nous pour fêter ce deuxième anniversaire de la création du Petit Maghreb. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est une belle réussite, n'est-ce pas?
Bonjour, merci de nous avoir invités. C'est effectivement un plaisir d'être là avec vous d'abord dans votre émission, que je vous encourage, je vous félicite. Deuxièmement, pour ce qui est du Petit Maghreb, c'est la deuxième édition. Et on est très fiers de voir autant de personnes participer à ça. D'abord les compatriotes, les Montréalais en général qui sont présents aujourd'hui, et que c'est un événement d'abord et avant tout un événement montréalais d'abord, que ce qu'on voulait faire un quartier montréalais avec une touche maghrébine. Et je pense qu'aujourd'hui on a avancé, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'un début. Effectivement, depuis la deuxième, on est très heureux qu'il y ait l'implication des trois pays d'abord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, de par leur ambassade et leur consulat, qu'ils ont leur propre chapiteau, et les différents commerçants de la rue Jean Talon et d'autres commerçants complémentaires, tous les commerces qu'on n'a pas ici. et rehaussé par la présence de nos élus, Madame Annie Sansan, on a le maire, Monsieur Gérald Tremblay, et les partis politiques, soit provinciales ou fédérales, Monsieur Justin Trudeau qui était là tantôt, Monsieur Massimo aussi, et notre ami surtout Emmanuel Dubourg qui s'est excusé de ne pas être là aujourd'hui parce qu'il est retenu à Drummondville avec le caucus du Parti libéral. Donc il s'excuse pour et il aurait aimé être parmi nous. Mais je pense que c'est la réussite de tous les Maghrébins et les commerçants qui ont fait un effort extraordinaire.
C'est vrai que c'est extraordinaire et ça fait vraiment chaud au cœur de voir ce qui se passe sur la rue Jean Talon. J'allais dire, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à venir. Mais comme l'émission va passer en différé. Donc, Monsieur Malik Hadid nous disait que c'était extraordinaire. Les débuts étaient très encourageants. C'est vrai que c'est très, très encourageant. Ce n'est que le deuxième anniversaire. C'est la deuxième fête du Maghreb à Montréal. Et cette fête a été rendue possible, bien sûr, grâce au dévouement de Monsieur Hadid et de Monsieur Boudi. Et aussi, et surtout, grâce à Madame Annie Sanson, qui est la mairesse de cet arrondissement. Madame Sanson, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Comment ça va? Comment allez-vous?
Ah, ça va très bien. Très
alors
bien,
vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça quand vous voyez tout ce beau monde ici à l'extérieur? C'est une belle réussite, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que... vous êtes derrière, il faut le rappeler, avec les instigateurs. Tout à l'heure, je ne parlais que d'eux. J'ai complètement oublié de mentionner que ce n'est que grâce à vous, à Madame Annie Sanson, que le petit Maghreb a été créé.
Ben écoutez, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à plusieurs personnes de la rue Jean Talon, dont Nasser Boudi, qui en 2005 m'avait dit qu'il y avait un rêve, qu'il voulait réaliser ce rêve-là du petit Maghreb. Et je lui avais dit comme une politicienne, ben si je suis élue, je vais le faire. Et finalement, j'ai été élue et j'ai pas eu le choix, je l'ai fait. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour la deuxième édition du Souk, je suis encore une fois émerveillée de voir autant de monde qui viennent de partout à Montréal. Ça prouve que le petit Maghreb est victime de son succès. Pour un deuxième événement, il y a à peu près 5000 personnes jusqu'à maintenant qui ont passé sur le site. La musique n'est même pas commencée. Les activités officielles ne sont pas commencées. Le site est déjà plein. Les gens sont ici, discutent depuis midi. C'est tellement beau de voir ça. Le soleil est au rendez-vous. La belle température est parmi nous. Et je peux vous dire vraiment, avec une grande fierté, que je suis contente que ce petit Maghreb-là soit dans notre arrondissement. Grâce à la collaboration de plusieurs commerçants, dont le président Malik Hadid, qu'on ne doit oublier, et surtout Nasser aussi. Nasser Boudi, qui est le roi de la rue, si on peut l'appeler ainsi, c'est mon maire à moi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est merci à tous ceux qui ont rendu ce rêve-là possible, mais surtout félicitations à la communauté, merci aux médias aussi, hein, de couvrir un événement aussi important, parce que la communauté a besoin d'avoir une bonne visibilité. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le petit Maghreb, j'arrête pas de dire que c'est le seul en Amérique du Nord, mais les Maghrébins n'arrêtent pas de me dire que c'est le seul au monde. Alors, ben on va le dire ce soir, c'est notre seul au monde, mais c'est un franc succès. Depuis 4 ans, il a travaillé à créer un noyau, une fondation, et actuellement, au bout de 4 ans, le projet est vraiment parti avec ses ailes. Et je pense que sky is the limit, si on peut le dire comme ça. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de la communauté.
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait,
oui,
Madame Sanson.
Nasser, donc en entendant le rêve de Nasser Boudi, qui était de réaliser donc ce projet-là. C'est sûr que Nasser l'a partagé aussi avec des membres de la communauté. Nasser, ta réaction aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur la rue Jean Talon?
Justement, on ne peut que être très content de partager cette ambiance et cette festivité avec notre communauté. Et aussi, il y a une présence quand même nombreuse de Montréalais et Montréalaises. C'est ça notre objectif. On veut faire de cet événement que notre communauté s'ouvre à la société montréalaise. Et à travers cet événement, on veut lancer toujours un appel, une invitation aux Montréalais de Montréal et Montréalaises de venir se rapprocher et nous connaître mieux. Et nous nous réjouissons parce que à l'occasion de ce souk, nous sommes en train de célébrer aussi l'officialisation des projets Le Petit Maghreb. Le mois de juin dernier, le quartier a été reconnu officiellement par l'hôtel de ville comme quartier portant désormais le nom du Petit Maghreb. Nous nous réjouissons de cette réalisation qui est venue, qui est le fruit d'un travail fort de trois longues années avec notre équipe, le Petit Maghreb, avec notre, bien sûr, le président Malik. On a fait un grand travail accompagné, soutenu par notre chère Annie et toute son équipe de l'arrondissement et aussi, sans oublier, aussi l'équipe de la SIDEC est représentée bien sûr par son directeur général, M. Dini Serwa. Au fur et à mesure, parce que notre travail, entre autres, c'est on a une équipe, on est en train de travailler fort pour livrer la marchandise et convaincre la majorité des commerçants afin qu'ils servent. Tout le monde constate aujourd'hui que le Petit Maghreb, c'est de Saint-Michel à Pinef. Et aujourd'hui, le souk est organisé seulement sur une partie de la 2e et au 15e avenue. Notre objectif à travers ça, c'est de couvrir tout le territoire du Petit Maghreb. Je voudrais donc lancer un appel parce que nous avons besoin de l'implication de la majorité des commerçants quartiers et aussi une implication forte dans notre communauté culturelle afin de faire de cette festivité un lieu d'expression et commercial et culturel riche. Donc nous nous réjouissons de la présence aujourd'hui en plus de nos partenaires, l'arrondissement, notre arrondissement Ville de Montréal et la SIDEC, de nouveaux partenaires qui sont nos pays maghrébins, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc ensemble, nous allons essayer de faire de cet événement un événement donc un lieu où les traditions, les coutumes et la culture de notre pays, plus la beauté
des trois pays maghrébins
et aussi notre identité, ici une occasion qu'on va essayer tout le monde ensemble pour
faire connaître la culture des trois pays maghrébins.
Notre culture. Et aussi, on veut y aller un peu loin, même ensemble, nous voulons faire des projets, un projet intégrateur et mobilisateur pour notre
communauté. Merci beaucoup, M. Nasser Boudi. Je crois que, Lamine, que nous allons marquer une pause musicale et on vous retrouve tout de suite après avec d'autres invités.
Édition Wordaphone, Zoukaddim, Lekom, El Moutrib, Fatih Rouala. Thank you.
رحلوا عليا وغابوا لعوات عيني تراهم عليا وغابوا لعات عيني تراهم نبعت لميم عشمس بعد سلامي مع الشمس إضاء قدات لقداهم تخيل نحاسبك يا ول الطايل راني مريد مهموم بالكتير كملت الزي اللي جبيناك البرق إجاني بالله يا ولد الطاير دي برايتي يمشي لغزاني إن شاء الله توصل
Vous êtes toujours avec l'émission spéciale du souk organisé par le Petit Maghreb. Et nous sommes le 26 septembre. Et ça, on est à 17h30, mais pour les auditeurs, à peu près presque 23h.
Il est presque 23h, donc pour vous qui nous écoutez en différé, il est presque 23h. Et après avoir reçu les instigateurs de ce petit Maghreb, ce magnifique petit Maghreb, c'est extraordinaire de voir tout ce beau monde ici déambuler sur les rues de Jean Talon au milieu des magasins maghrébins, algériens, tunisiens et marocains. Je crois même qu'il y a même un magasin libyen quelque part, mais je ne sais pas où, sur la rue Jean Talon.
On va bientôt la voir.
On va certainement bientôt la voir. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, ou qui ne le sauraient pas, que le petit Maghreb, pour le moment, s'étale de la rue Pinoff jusqu'au coin de la rue Saint-Michel. Et que les magasins maghrébins, justement, eux, il y en a beaucoup qui sont bien au-delà de ces deux coins de rue, très importants. Ça peut aller vers l'est jusqu'à...
Saint-Laurent
vers l'est jusqu'au boulevard Saint-Michel, et vers l'ouest jusqu'au boulevard Saint-Laurent. Et donc, nous avons maintenant le plaisir de recevoir, l'immense plaisir, je dirais, de recevoir Madame Louise Harel, qui est candidate à la mairie de Montréal. Son objectif, c'est de damer le pion à l'actuel maire, qui est ces derniers temps dans tous ces états à la suite des très nombreux scandales qui ont secoué la mairie de Montréal. Ça fait plaisir à Madame Harel, elle est en train de nous sourire. Madame Harel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Alors, mon objectif, c'est surtout de faire du grand ménage à l'hôtel de ville. et aussi d'y apporter des changements en profondeur dont Montréal a besoin. Je pense qu'il faut redonner confiance aux Montréalais à l'égard de leur administration publique et aussi redonner fierté d'être Montréalais.
Ce soir, en parlant de fierté, justement, c'est une immense fierté pour nous, d'abord de vous avoir parmi nous, ensuite de vous voir aussi déambuler au milieu des nombreux maghrébins qui sont présents aujourd'hui à cette magnifique fête, cette superbe fête des pays maghrébins. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance que vous avez vue?
Écoutez, c'est très festif. Alors, et ça précède ce petit Maghreb hein, que l'on veut en fait implanter de manière permanente. Mais il y aura toujours besoin de l'atmosphère de souk. Alors, évidemment, même avec la petite Italie qui existe depuis au-delà d'une décennie, il est sûr qu'il y a toujours besoin dans la communauté de mener la settimana italiana. Et il y aura toujours, même avec le petit Maghreb, nécessité, je pense, de fêter ensemble. Hein. Et cette présence-là de tous ces kiosques, de tout savoir-faire, hein, du savoir-faire marocain, du savoir-faire... Je continuerai, n'est-ce pas, à visiter l'ensemble de ce qu'on nous présente sur la rue de Tunisiens et Algériens. Moi, j'ai eu l'occasion, c'est un privilège dans ma vie, d'aller à la fois au Maroc, à la fois en Tunisie, à la fois en Algérie. Et je l'ai fait pour à chaque fois signer des ententes de coopération entre le Québec et chacun de ces trois pays dont sont d'origine une bonne partie des gens qui sont ici. Mais ici, il y a de tout. Hein? C'est ça qui est formidable. Madame... Parce que finalement, l'idée du petit Maghreb, c'est pas d'amener les gens à y habiter, c'est d'amener tous les Montréalais et les Québécois et les Canadiens et tous les touristes qui viendront, quelle que soit leur origine, à venir chercher l'odeur, là, ça, à venir chercher...
En parlant de Montréal, Madame Luzarel, vous êtes candidate à la mairie d'une ville où 50% de la population vient d'ailleurs. Si on vous parle de diversité, la situation de la diversité à Montréal, est-ce qu'elle est bien gérée et qu'est-ce qui pourra être amélioré pour gérer cette diversité montréalaise?
Écoutez, je pense que la diversité est la richesse de Montréal. Sa créativité, la diversité, c'est la combinaison gagnante. Il est certain que ces changements ont lieu très rapidement. Il y a 40 ans, en 67, lorsqu'il y a eu l'exposition universelle, le Québec et Montréal en particulier s'est ouvert au monde. Mais le monde est venu habiter à Montréal et d'une certaine façon, le Québec y est resté très étranger. Alors, il y a toute une réconciliation à faire entre le Québec des régions et cette réalité, cette richesse de la diversité à laquelle le Québec est encore très étranger. Je pense que pour bien gérer la diversité, je vais vous dire, moi, mon projet, mon ambition, c'est d'avoir un bureau de la diversité, mais pas au niveau politique, d'abord au niveau de la direction générale de la ville, c'est-à-dire d'une manière opérationnelle, de façon à ce que ça pénètre dans l'organisation de la ville. Parce que très souvent, les candidats, les élus, de bonne foi et légitimement, portent ce projet de diversité, mais ça reste un projet, si vous voulez, de politique et non pas un projet administratif. Il faut qu'il s'incarne dans l'opérationnalisation, l'organisation de la ville elle-même. Bon, moi, je pense qu'on a eu une première génération de programmes d'accès à l'égalité. Ça fait 20 ans, à tous les niveaux de gouvernement. Et ils sont inopérants parce que les gouvernements n'embauchent plus. À Québec, c'est un fonctionnaire sur deux seulement qui va à la retraite, qui est remplacé. À Montréal, c'est le gel des effectifs. Mais il faut une deuxième génération, je l'appelle deuxième génération de projets d'égalité en emploi. Et c'est auprès des fournisseurs, des contractants, des grandes administrations montréalaises, québécoises et canadiennes. Et je pense qu'à Montréal, on peut être les premiers à appliquer cette deuxième génération de programmes d'égalité en emploi, mais cette fois, si vous voulez, auprès de ceux et celles qui ont des contrats avec la ville et qui auront à démontrer qu'ils respectent en fait ces règles d'égalité en emploi.
Madame Morel, avant de vous laisser aller à la rencontre de vos électeurs qui sont fort nombreux aujourd'hui à l'extérieur, vous êtes candidate à cette élection à la mairie de Montréal et J'aimerais savoir quels sont. Est-ce que c'est possible de nous parler des chances que vous avez de pouvoir, on va dire entre guillemets, déboulonner l'actuel maire, Monsieur Tremblay.
Mais vous savez que au départ, lorsque j'ai annoncé ma candidature le 3 juin dernier, j'avais un assez grand écart avec les intentions de vote. Et ma foi, maintenant. Ce seront Montréalais à décider le 1er novembre prochain, mais si on se fie au sondage, ça va bien, mais je pense que le meilleur sondage, c'est celui de l'élection. C'est le taux de participation qui va décider du sort, si vous voulez, et de l'avenir de la prochaine administration à Montréal, parce que ceux et celles qui ne votaient plus, vous savez que la dernière élection, c'est 35% seulement de Montréalais qui ont voté. Ceux et celles qui ne votent pas, d'une certaine façon, dans les démocraties, à partir du moment où ils acceptent et veulent le changement, c'est eux qui font la différence. Voyez comment ça s'est passé aux États-Unis. Les républicains conservateurs, ils étaient toujours les mêmes, hein, ils n'ont pas diminué. M. Obama, il ne les a pas convaincus. Hein. Ce sont ceux et celles qui ne votaient pas, qui sont allés voter, c'est eux qui ont provoqué le changement. Et je crois que si le changement doit arriver, c'est avec ceux et celles qui ne votaient pas aux élections municipales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Montréal, il n'y a pas de tradition parce que les locataires n'ont pas voté à Montréal avant 1970. Auparavant, les locataires n'avaient pas droit de voter à Montréal. Il n'y avait que les propriétaires qui étaient une poignée parce qu'il y a toujours eu un pourcentage très élevé. C'est toujours 66 % de locataires. Alors, ça n'a pas été une tradition de génération en génération. Cette fois-ci, je pense sincèrement qu'on est dû pour un changement très intense, très profond. Pas simplement un grand ménage, mais plus encore une réorganisation de la ville. Et je crois sincèrement que ceux et celles qui veulent secouer le statu quo, il faut qu'ils aillent voter.
Madame Morel, au-delà des chiffres que nous donnent les différents sondages, qui donnent M. Tremblay gagnant, est-ce qu'on peut dire?
Non, les sondages me donnent.
Les derniers sondages.
Les derniers, oui.
Ont versé,
les deux derniers.
Les deux derniers,
oui. Est-ce qu'on peut dire que... Moi, je suis en courbe ascendante et il est en courbe descendante.
Donc, l'optimisme est de rigueur dans votre
cas. C'est un optimisme qui dépend de ceux et celles qui vont le décider le 1er novembre prochain en allant voter. Parce que, vous savez, un sondage, c'est le téléphone. Aller voter, c'est le geste citoyen. C'est vraiment quelque chose de très important.
Madame Arel, vous avez participé durant toute votre vie politique à des grands changements au Québec. Plus que 30 ans de vie politique très mouvementée par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la question de la femme, la question de la démocratie au Québec. Vous pouvez être le 2 novembre la première femme mairesse de Montréal. Qu'est-ce que ça vous fait de participer aussi à ce genre de changement, puisque ça serait un grand changement par rapport à la participation donc de la femme dans le domaine politique au Québec?
Bon, écoutez, je pense que ça peut être un très important changement. J'ai été la première femme élue à la présidence de l'Assemblée nationale. J'ai été aussi la première femme, après avoir été élue à la présidence de l'Assemblée nationale, à avoir été chef par intérim au départ de M. Landry. Mais c'est bien certain que ce que je souhaite aussi, c'est une équipe très diversifiée d'élus de toute origine, de toute génération. Il y aura au-delà de 45 candidates vont porter les couleurs de Vision Montréal et puisque de toute origine également. Alors, je souhaite de renouveler la composition de la classe politique montréalaise. Il y a un renouvellement dans ce 21e siècle qui est absolument nécessaire pour mieux représenter ce qu'est Montréal, la diversité à Montréal, femmes entre générations qu'entre origines.
Merci beaucoup, Mme Arel, d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance.
Merci.
Dans
merci
votre
bien.
Quête de Alors, conquérir la mairie de Montréal.
Voilà.
On va merci. Le faire. Merci.
On va prendre une petite pause musicale.
Exactement. C'est Mourad qui décide. C'est lui qui est à la console technique. C'est parti. OK. Donc, une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec d'autres invités.
bon retour avec nous pour cette émission. On l'a fait pas en direct, mais en différé, puisque l'émission elle est en direct du souk organisé par le Petit Maghreb. Comme vous le savez, le Petit Maghreb organise aujourd'hui, le 26 septembre, la deuxième édition du souk. Et avec nous, Aïssa Dorka, Boyo Fardokhren.
Après avoir parlé politique, nous passons à la littérature, puisque nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir donc deux écrivains algériens, deux poètes, deux artistes. Et ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent pour désigner les deux personnes que nous avons le plaisir de recevoir. Donc nous avons M. Salah Ben Labed, qui est auteur, architecte, prof d'université et poète. Il est l'auteur de deux recueils de nouvelles et d'un roman. Le dernier, qui est le roman, c'est De quelques défauts qui font les humains. Et les deux recueils de c'est ça, qui font les humains, c'est ça? Oui. Et Notes d'une musique ancienne et La valise... Et La valise grise. Donc le roman, c'est Note d'une musique ancienne. Et nous recevons aussi M. Hassan Ziani, qui est gestionnaire en informatique et qui est un féru de l'écriture, on va dire, puisqu'il est poète et écrivain lui aussi. Il a déjà fait publier Le Soupir, qui est un recueil de poèmes, L'Énigme, qui est un roman, et aussi un autre recueil de poèmes en berbère, Tijginin Wawel. Je prononce bien, j'espère. Monsieur Ben Labed, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, je ne vais pas vous demander de vous présenter, on l'a déjà fait, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre dernier recueil de nouvelles, qui est, si je ne me trompe pas, De quelques défauts qui font les humains?
Oui, je vous remercie d'abord. Ça fait doublement plaisir d'avoir des amis en face pour vous interviewer. Donc, vous allez me laisser parler.
Certainement.
Merci. Oui, effectivement, c'est le troisième roman, mais je voudrais quand même reprendre au départ. C'est un élargissement, en fait, de mon regard sur la société. Le premier, qui a été La valise grise, traitait beaucoup de l'Algérie, de nos vies là-bas, de nos rencontres. Le second a traité donc de l'expérience d'un journaliste exilé au Canada. Le troisième, c'est un élargissement dans le sens que c'est un recueil de nouvelles qui présente des situations un peu particulières, qui mettent en évidence les défauts de l'espèce humaine, mais avec un regard très sympathique, en fait. C'est un élargissement dans le sens que si le premier a parlé de l'Algérie, le second de nos expériences canadiennes, le troisième parle de l'humanité. C'est un domaine, l'humanisme, dans lequel je me targue de travailler.
Merci. Monsieur Hassan Ziani, vous aussi, vous êtes ce qu'on peut appeler un passionné de l'écriture. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous parler de votre dernier ouvrage?
D'abord, merci Aïssa, si vous m'avez pris un petit peu à front.
Oui.
Oui, comme tu le disais tantôt, mon premier, c'était Le Soupir. C'est un ouvrage plutôt philosophique, c'était pour redéfinir certains concepts bien galvaudés comme liberté, bonheur, vérité, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment des redéfinitions, mais plus une vulgarisation de ces concepts-là.
Revu et corrigé par Hassan Ziani.
Voilà, et donc décoré avec des poèmes à chaque fois sur le même thème. Donc une dissertation puis des poèmes sur le même thème. Pour chacun de ces thèmes, il y en avait 14. Le deuxième, c'est un roman, L'Énigme. C'est un personnage énigmatique, bien de chez nous, donc qui illustre surtout le phénomène de la rumeur chez nous. Il s'agit finalement d'un personnage dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. Donc j'ai bien mis en évidence le phénomène de la rumeur chez nous, qui peut former des rois et qui peut tuer des lions. C'est un peu ça l'essentiel de ma chose. Le troisième, c'est un recueil de poèmes en berbère, enfin des poèmes que pour la plupart j'ai fait chanter déjà en Algérie dans les années 80 et que j'ai repris et adapté avec quelques petites nouveautés. Voilà donc en gros ce que c'est.
Je posais la question par rapport à l'événement du souk. On sait très bien que l'artiste peut produire, mais c'est très important que ce qu'ils produisent soit partagé avec son public. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'artiste, un événement comme celui organisé aujourd'hui, le Souk, pour peut-être rentrer en interaction avec un public très large?
Je crois que, je le disais à quelques-uns d'entre vous, je crois que c'est une première expérience fantastique. Le nombre de personnes, l'intérêt des gens, et plus en ce qui me concerne, l'intérêt pour le livre. J'ai reçu beaucoup de gens. C'est vrai que nous avons tendance à faire de la publicité chaque fois qu'un livre sort. Et je m'aperçois ici, que dans le Souk, que des gens étaient peu informés encore. Mais ça a eu un bon succès. Je ne parle pas de succès commercial, je parle du succès d'intérêt. J'ai été très agréablement surpris par l'intérêt donc de nos amis pour la littérature. Maintenant, il faudrait, à mon avis, que, et c'est aussi important que ce premier événement, il faut absolument que ça devienne une tradition, et je pense que c'est ce genre de tradition qui réellement constitue le squelette des communautés. Ce sont les traditions.
Vous êtes tous les deux, M. Ben Labed et M. Ziani, vous êtes tous deux Algériens, Québécois, issus de l'immigration. Vous êtes écrivain, et la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Vous, quand vous écrivez, d'abord, est-ce que vous vous souvenez? Et ensuite, si oui, de quoi?
On se souvient de l'essentiel. On se souvient surtout de nos origines. On sait d'où on est venu. Même si on ne sait pas toujours où l'on va, mais on sait au moins d'où on est venu.
En ce qui me concerne, je dirais que c'est un peu dans cet ordre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'était de se souvenir d'abord de qui nous étions. C'était l'objet de mon premier livre. Le second, c'était de qui nous étions à l'étranger et comment nous allions nous... Et le troisième, c'est pour en fait montrer que ce que nous vivons est vécu par toute l'humanité.
Justement, la question qui me brûle les lèvres et qui me tient à cœur, c'est par rapport à cette... un nouvelle vie. Nous sommes tous dans le même panier, nous avons tous quitté nos pays respectifs, nous vivons tous à l'étranger aujourd'hui. Vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous vous considérez comme des immigrés ou comme des exilés? Ou ni l'un ni l'autre? Peut-être que vous n'êtes qu'en transit, comme beaucoup d'entre nous.
Bon, ça dépend en fait des définitions qu'on veut donner à l'exilé. Personnellement, je n'ai pas été chassé du pays, mais bon, j'ai ressenti le besoin à un moment donné de m'éclipser, d'aller ailleurs, d'aller m'exprimer. Bon, ces choses, juste en parlant de ces livres-là, je n'aurais peut-être pas pu les publier en Algérie. C'est peut-être une question de moyens pour commencer, mais bon, les éditions ne sont pas faciles, par exemple. Voilà, entendre.
Monsieur Ben Labed.
Je dirais que, en ce qui me concerne, je commence à ressentir un peu de calme, un peu de sérénité au Québec. Je crois qu'il faut que la société donne des chances à ceux qui viennent s'installer. Je crois que j'ai eu la chance exceptionnelle, je ne l'aurais certainement pas fait en Algérie, de pouvoir faire éditer 3 livres. C'est, je crois, cette participation, en fait, à la société par l'écrit, qui rend les gens sereins et qui permet une réelle insertion.
Mais cependant...
Cependant, oui.
Le paradoxe, pour revenir un peu à la sérénité de Berabé, si le Québec nous a accueillis, nous a permis certaines choses, malheureusement, les autres ne nous le permettent pas. Personnellement, je n'ai pas été invité, par exemple, à exposer mes livres aujourd'hui. Je l'aurais fait avec plaisir.
Dommage.
Je pense on a fait le tour de la question. On va prendre une petite pause musicale et on va revenir avec nos auditeurs.
Avec nos invités.
راسكم ما يمجي غير في الزوال الشعب كي وصل للحدود عادي خافه كيف يعاقب بالسلعه من غير مشها بزاف بلاك ينحي والو وتجي خساره كبيره بلاك يفري لافير شويه فران ولا ليره ولا كان ما يشبعوش اكثر واكثر هما يحبوها يمنكروا فيه ويعدي طول موندا ديبوها لازم رشوه ومعرفه بيان باش يخرجها ما يقولوش معلش مسكين زوالي نزيد محتاجها يخليوها مبلوكيه ورقدتو حاصله يحبوا يخدموا غير ما لعبات لي زعما واصله كوميرس مونديال ولي برودوي فارماسوتيك لا بياس ميكانيك وليكيبمون انفورماتيك لا تكنيك لي كبروا بها شيفر دافيرز لي برودوي اليمونتير ولا ماتيير بريمير على جال هاد الكلاب المر زادت ظهر الشعب المحر ولادو كل في الغبر رشوه سرقه ذبيحه كتيره دم كاع لي سير ولاد الشعب الله ميدا مام تصير الفايده مام توقع فوضى ما تكسروش راسكم ما يمجي غير في الصواولة رشوه سرقه ذبيحه كتيره دم كاع لي سير ولاد الشعب الله ميدا مام تصير الفايده مام توقع فوضى ما تكسروش راسكم ما يمجي غير في الصواولة شوف التلي اعترافات الهابي كريمينال ندور الجزيرة تلقى اعترافات البيتنا كولونال وش كانت خدام بحبال ما نعرف صح ما نعرفه ما نعرف ري ولا ميزانسانة ليسانسيال دم الشعب في طريق مازالة وهما في الفوياج بالشمباني في الكيسانة كنت حاب تحاسبهم يعاقبوك تلعب بروسي خطك بالنسبة ليهم انت يا ورقة في دوسي نمرو شيفرة يديروا بيك حسابة كيسحق الصوار لك انت علي تخلص لها رزاتة تجيك غرامة يقولوا القانون معانا سنو اعطينا رشوة ونهار اخر تلقانا
Retour donc presque en direct.
J'allais dire, on va le répéter très souvent avant la fin de l'émission. C'est une émission enregistrée à partir de la rue Jean Talon, du petit du souk, du petit Maghreb.
En fin de compte, c'est un direct différé.
C'est un direct en différé. Et j'aimerais juste rappeler et remercier les propriétaires du café Safir. Grâce à qui justement l'enregistrement de cette émission a été possible. Donc nous retrouvons nos invités. Monsieur Hassan Ziani est encore avec nous et cette fois-ci nous avons libéré, il faut le signaler, Monsieur Salah Ben Labed qui a d'autres occupations à l'extérieur puisqu'il est en train de mettre en vente ses différents livres et romans. Et nous recevons le député de la communauté algérienne en Amérique du Nord, enfin un peu partout à travers le monde, Océanie, Asie, Océanie, etc. Monsieur Mohamed Gach. Monsieur Mohamed Gach, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand vous voyez cette fête à l'extérieur, tous ces Algériens, tous ces Maghrébins présents, vous qui vivez à Washington, vous ne vivez pas avec nous ici à Montréal, il faut le rappeler. Qu'est-ce que vous en pensez?
Premièrement, je veux profiter de donner un mot à la communauté algérienne, que Eid Mubarak, ou pour l'âme, ou m'abkhir, on abkhir. Vraiment, c'est une. Je crois que c'est la deuxième année. La première année, j'étais pas présent, j'étais occupé. Mais vraiment, c'est. Premièrement, je veux remercier. Comment ça s'appelle?
Les organisateurs
de le petit Maghreb. Et je trouve que c'est une quelque chose d'extraordinaire. Et plus, vous trouvez que les trois pays, le Marocain, l'Algérien, les Tunisiens ici. Et moi, je suis très bien, je suis heureux avec mes amis, mes frères, toute la famille ici.
Ah, vous êtes en famille?
Non, toute la famille. Ah, ok. Famille algérienne.
Ah, ok, non, je pensais que vous étiez en famille.
Je suis arrivé seul aujourd'hui.
Vous êtes venu de Washington?
De Washington.
Est-ce que vous êtes venu exprès pour ça?
Oui,
pour assister
pour
à cette fête?
Oui, je suis venu exprès pour ça, oui.
Ok, en tant que député et de représentant de la communauté algérienne au niveau de l'Assemblée populaire nationale, est-ce que vous pourriez nous dire si vous pouvez ou vous allez, on va dire, intercéder en faveur de la communauté algérienne pour faire de ce souk, de ce petit Maghreb, une plus grande fête à l'avenir?
Mais où? Ici ou
ici, non, ici à Montréal.
Bien sûr, mais je crois que vous êtes en deuxième année.
C'est la deuxième année, oui.
Je suis sûr et certain, mais je trouve que le gouvernement canadien, il supporte 100% l'Union maghrébine.
Oui, mais nous, on parle du gouvernement algérien, des autorités algériennes.
Bien sûr, s'il y a quelque chose, je peux travailler avec vous pour faire cette fête plus grande.
Une plus grande fête,
bien sûr.
Il n'y a pas de problème.
Moi, je suis volontaire.
Ok, on va vous mettre en contact avec les organisateurs du Petit Maghreb, M. Boudi et M. Malik Hadid, pour essayer de développer encore un peu plus tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci
et puis bonnes vacances à Montréal et à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors,
maintenant, je pense qu'on va revenir à M. Ziani, mais cette fois-ci pour parler d'un autre sujet. Il y a un communiqué qui a été émis donc aujourd'hui, le 25 hier, donc un communiqué qui questionne un petit peu la nomination du Petit Maghreb. Un communiqué qui a été signé par Tefsout, le CAM, Centre Amazigh de Montréal, Solidarité Québec Kabylie et INAS, dans lequel les gens peuvent aller le lire sur le site AlgéroWeb, puisqu'il est sur le site AlgéroWeb, qui parle de la problématique que ce quartier, il soit plutôt nord-africain que maghrébin. De quoi il s'agit, M. Ziani, et pourquoi c'est un problème que le quartier se nomme Petit Maghreb?
Bien, le problème est que la réaction des gens est par rapport à l'exclusion d'une grosse partie de cette région du monde qui est l'Afrique du Nord. Nous estimons justement que le nom le plus représentatif est celui de l'Afrique du Nord, qui est de tous les temps été donné à cette région de la Méditerranée. Alors que la notion de Maghreb n'a aucune existence objective et neutre, c'est une invention de la Ligue arabe. Et le Maghreb, d'ailleurs, Maghreb par rapport à quoi? C'est le Maghreb arabe par rapport au Meshraq arabe qui est l'Orient. Donc c'est une invention de la Ligue arabe, c'est vraiment à connotation politique. Ça serait quand même parti, c'est un parti international si l'on veut, même si cette Ligue arabe n'est rien d'autre qu'un syndicat de chefs d'État, c'est même pas une union des peuples, mais en fait c'est une connotation politique, ça n'a rien de neutre. Que l'Afrique du Nord, c'est plus rassembleur et c'est plus objectif, c'est géographique, parce qu'il s'agit de nous, est-ce qu'il s'agit de nous identifier géographiquement ou idéologiquement? Identification par Maghreb, c'est purement idéologique, c'est enfanté par la Ligue arabe.
Monsieur Ziani, bien que on peut tout à fait discuter la question que le mot Maghreb est positionné par rapport au monde arabe, donc c'est une intégration de cette partie du monde au monde arabe, mais en même temps, pensez-vous pas qu'une association qui se crée, elle ne pourra pas changer un paradigme, parce que c'est devenu comme un paradigme qui veut dire plusieurs choses? Et on sait très bien qu'il y a la délégation de l'immigration du Québec qui s'occupe du dossier du Maghreb. Quand on voit les statistiques Canada, on parle du Maghreb. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait un problème d'utiliser un nom, même s'il est plus juste peut-être, oui, mais ça serait problématique parce que déjà les gens ne vont pas le comprendre.
Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprendraient pas Afrique du Nord, c'est bien plus simple. Là, c'est très géographique, même quelqu'un qui ne connaît pas, c'est facile à comprendre. Afrique du Nord. Alors que Maghreb, déjà, les gens vont s'interroger sur ce que c'est. Mais ce qui est surtout plus à déplorer là, plus que le nom même, c'est que c'est une petite association qui fait ça sans concertation et qui fait dans l'exclusion, ce que je disais tout à l'heure, je suis la preuve vivante et présente là. Il y a un souk, j'habite à deux pas, j'ai vu plusieurs fois les représentants, personne ne m'a invité à exposer mes livres par exemple. Est-ce que c'est une façon de faire dans l'exclusion ou pas? Je me questionne.
Mais est-ce que le projet lui-même, est-ce que les signataires du communiqué remettent en cause le projet lui-même ou est-ce que c'est juste une question de nom?
C'est une question de nom. Bien sûr que tout le monde veut avoir une identité, là on veut avoir notre quartier, c'est certain. C'est une question de nom, purement et simplement.
Ce ne serait pas justement beaucoup plus intéressant de créer un autre quartier et l'appeler, je ne sais pas, la petite Kabylie de Montréal, au lieu de vouloir...
En revenant à ça, oui. Je serais plus d'accord qu'on prenne un petit quartier qu'on l'appelle la petite Kabylie que de l'appeler le petit RCD. Moi, je suis du RCD. Si on l'appelle le petit RCD, ça serait politique.
Non.
Mais on l'appelle la petite Kabylie, ça serait géographique. J'ai pas de problème avec ça.
Ok, mais mais justement, par rapport au petit Maghreb, vous voulez qu'on l'appelle ce quartier nord-africain.
Oui.
Ce serait pas ma question est la suivante, ce ne serait pas plus intéressant pour la communauté algérienne ou pour, on va dire, pour les Maghrébins, parce que des Berbères, des Amazighs, il y en a partout, on a en Algérie, en Tunisie, en Maroc, il y a Mourad qui est en face de nous, à la technique, on a en Libye, on a en Mauritanie.
Au Mali, au Niger.
Au Mali, au Niger, au Yémen.
Les îles Canaries.
Aux îles Canaries aussi, un peu partout. Peut-être pour ratisser l'âge, ce serait plus intéressant de lui donner un entraînement, pas la petite Kabylie.
Amazigh, le petit monde Amazigh.
Ça serait, en tout cas, ça serait encore au moins une connotation historique. Là-dedans, il y a une dimension historique.
Oui, mais ce serait peut-être meilleur, plutôt que d'être basé sur une fausseté, puisque vous dites que le Maghreb est une invention de...
Oui, tout à fait.
C'est une appellation qui a été donnée à l'Afrique du Nord par l'Union...
Mais la Ligue arabe, mais quand même, le nom a été historiquement, elle a été utilisée avant l'existence de la Ligue arabe. C'est sûr qu'il n'a pas existé il y a plus que 14 siècles, mais je ne pense pas que le nom Maghreb, parce que Ibn Khaldoun fait référence, il y a des textes qui font référence au Maghreb, mais je comprends très bien votre problématique, c'est que vous parlez du Maghreb politique qui représente une partie d'un monde que vous ne considérez pas. Un élément un petit peu qui a été une des réactions de certains lecteurs du communiqué. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un détail ? J'essaie pas de minimiser l'importance des noms.
Au-delà de la revendication.
Au-delà de la revendication, vous ne pensez pas que la grandeur du projet, le défi de la communauté nord-africaine, maghrébine, tout ce qu'on veut, à s'intégrer, à pouvoir avoir une vitrine pour se montrer aux autres, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un détail par rapport à ça ?
Non, mais en soi, l'idée est très bonne. De constituer une communauté, il y a un quartier chinois, un quartier italien, effectivement, l'idée en elle-même est très bonne, on l'avait dit tout à l'heure. Ce que nous contestons, c'est le nom. Et bien sûr, il y a l'activité elle-même, je souhaite que...
Il y a plus d'ouverture, plus de...
Plus d'ouverture, que ça soit, je le répète, j'ai vu tous les jours les organisateurs ici, personne ne m'a invité à exposer mes livres.
Ok, on va vous mettre dans la liste pour les années à venir, Hassan Ziani. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est reparti en musique et on vous retrouve tout de suite après.
Avec d'autres invités.
Avec d'autres invités.
I'm
retour à l'émission donc spéciale organisée par toute l'équipe algérienne de Radio Centre-Ville. Et Issa, après avoir reçu M. Ziani qui nous a parlé de la problématique du nom du Petit Maghreb, maintenant on reçoit le docteur Ahmed Bessaada qui va nous parler des derniers événements sur la scène médiatique, puisque dernièrement Ahmed a écrit beaucoup d'articles sur plusieurs questions, et d'autre part peut-être qu'il va nous parler de clubs à venir puisqu'il est impliqué et l'événement arrive bientôt.
Et du petit souk aussi.
Oui, grand souk dans le Petit Maghreb.
Le grand souk dans le Petit Maghreb. Alors c'est vraiment un honneur de venir participer à cet événement. L'ambiance est vraiment très festive et ça fait vraiment un honneur de participer à cet événement. Alors, en ce qui concerne Club Avenir, j'aimerais juste mentionner que l'événement, donc la distribution des prix puis le gala va se passer le 6 novembre prochain, et que donc on aimerait que la plupart des gens viennent assister à cet événement et aussi viennent encourager les gens qui vont être primés, parce que le Club Avenir, je le rappelle aux gens qui ne sont pas au courant, c'est un club qui offre des prix aux personnes qui se démarquent dans la communauté, dans tous les domaines, que ce soit sportif, que ce soit dans le domaine de la création, dans les arts, dans les médias, etc.
Donc, et fait que vous organisez cette année dans une grande salle.
Exactement. Cette année, ça va être très festif, un peu comme le souk, ça va être un grand souk aussi. Ça va être au Jésus. Ça va être au Jésus, donc on espère que l'ambiance va être très bien. Puis on espère surtout qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront assister à cet événement.
D'autre part, moi, je suis à l'occasion d'avoir Ahmed Bessaada pour parler de quelques articles qu'il a écrits dernièrement, ou d'autres articles qui sont écrits sur la question du racisme en France. Et je voudrais faire référence essentiellement à l'article qui a été publié par un journaliste.
C'est vrai qu'il y a deux ou trois jours, un journaliste du Monde, donc c'est un journaliste vraiment de renom, a décidé de faire son coming out, comme on dit, et de parler du racisme. En fait, pas du racisme tel qu'on connaît, mais du racisme latent, du racisme de tous les jours, du racisme du racisme qui passe anodin, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent quotidiennement, qui sont entachées de racisme, mais on ne les note pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ?
Les gens ne le dénoncent pas aussi,
parce que ça paraît très anodin. Donc, si quelqu'un vous refuse un emploi parce que vous êtes noir, ça c'est du racisme. Mais si quelqu'un vous dit
parce que vous avez un nom,
exactement. Mais si la même personne vous dit vous savez, vous êtes différent des autres, parce que moi j'aime pas les Arabes, mais vous êtes différent. C'est du racisme, mais ça paraît anodin. Donc les gens ne le remarquent pas, puis ne le dénoncent pas nécessairement. Alors ce qu'a fait Monsieur Kessous, qui est un journaliste au Monde, c'est de dire au quotidien ce qu'il vit, et dans un style incroyable. C'est un article qui a fait fureur, et c'est un article qui a été repris partout, qui a fait exploser la blogosphère, et qui a même été repris dans les journaux algériens. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un article au quotidien d'Orange à ce sujet-là.
Et il faut rappeler que c'est arrivé que M. Kessous a décidé de dénoncer plutôt ses comportements xénophobes à la suite d'un événement dont était dont l'acteur principal était le ministre de l'Immigration, M. Hortefeux.
M. Hortefeux, qui aussi dans le même style de racisme latent, avec des petites formules, avec un petit zeste de racisme, et qui passe inaperçu, mais les gens les gens qui ont assisté à la scène ont voulu dénoncer, parce qu'un ministre n'est pas n'importe qui. Un ministre de la République française se doit d'avoir un langage
qui est un minimum de retenue,
puis aussi du respect pour tout un chacun.
Il a été pris en flagrant délit et ça a été dénoncé par tout le monde. Et c'est vrai que il s'est excusé, il s'en est excusé à demi-mot, disant que non, qu'il n'était pas raciste et qu'il allait le prouver. Il est allé par la suite assister à un iftar. Ouais, organisé par
folklorique.
Il est allé assister à ce iftar et il a été épaulé par le directeur de la mosquée de Paris, dont on sait aussi que récemment il a fait aussi la une des médias lui aussi.
Exactement.
Docteur Bessaada, un grand journaliste au Monde qui a une très bonne carrière, il peut supporter quelques moments de frustration, de quelques remarques mal placées. Mais malgré ça, je pense qu'il a pris un risque puisqu'il s'est affiché en disant qu'il y a du racisme dans un pays où c'est un petit peu difficile juste de dire qu'il y a du racisme. Quand on est à ce niveau-là, c'est sûr que par rapport à sa carrière, il a mis sa carrière en danger en annonçant tout simplement en donnant un constat que tout le monde connaît. Que pensez-vous du rôle des intellectuels qui ont pu trouver une bonne job, qui arrivent à s'intégrer, mais qui sont loin de s'afficher, d'utiliser leurs plumes, d'utiliser aussi leurs verbes pour dénoncer ce que leur communauté subit, ce que l'injustice qui est faite à travers ce racisme qui existe un peu partout dans le monde.
C'est vrai que, en fait, l'article de M. Kessous, pourquoi il a fait fureur, pourquoi il a eu autant de succès, c'est justement parce que c'est un des rares qui a fait, comme je l'ai appelé tout à l'heure, un coming out. Donc les gens qui réussissent se complaisent dans leur situation, dans leur rôle, etc. Ils sont dans une bonne situation. Mais lui, justement, ce qui a fait la force de son article, c'est non seulement le style avec lequel il a raconté ces petites scènes de racisme, ces scénettes de racisme quotidiennes, mais aussi c'est de le dire haut et fort. Et il s'est attiré les foudres parce que j'ai lu hier, il y a eu des articles contre lui pour dire que justement Monsieur Kessous, ils l'ont même attaqué sur comment il a été recruté. Il a dit qu'il a été recruté par discrimination positive. Et c'est vrai qu'il a été recruté par discrimination positive. Ça veut dire que on lui a donné une chance, un peu plus de chance que les autres. Mais ce que lui a répondu, c'est que s'il y a discrimination positive quelque part, c'est parce qu'il y a du racisme et qu'il y a de la discrimination. Parce que dans un monde idéal, il n'y a pas de racisme et il n'y a pas de discrimination, positive ou négative.
Absolument. Monsieur Ben Saada, on a parlé de tout, on a survolé un peu le club à venir et la grande fête que vous vous préparez à organiser le 6 novembre prochain à la salle Le Jésus. Il va falloir rester à l'écoute et sur Internet, sur les différents sites comme Xari, comme le site de Club Avenir, etc., pour avoir des détails concernant cette grande fête qui récompense, il faut le rappeler, les têtes, les cerveaux algériens, les Algériens de la communauté algérienne du Québec qui réussissent dans leur domaine respectif. Maintenant, on aimerait que vous nous disiez un mot sur ce que vous avez vu aujourd'hui sur la rue Jean Talon.
Alors, moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. L'ambiance est vraiment
à la fête.
À la fête, elle est festive. J'ai rencontré beaucoup de personnes que j'avais pas vues depuis très longtemps. Ça me fait vraiment plaisir. On dirait que je suis à Oran sur la rue d'Arzeux. Sincèrement, je me sens vraiment comme chez moi. J'ai oublié que j'étais à Montréal.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Puis les gens, c'est rare de voir des gens. Dans un espace limité, mais tous souriants. Ok, les gens sont souriants, les gens sont, il y a pas d'animosité.
C'est la fête.
Il y a juste des regards très 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 heureux, des sourires et les gens sont vraiment. On dirait l'Aïd. On dirait vraiment c'est l'Aïd dans la rue d'Arzoua à Oran.
Eh ben merci beaucoup Monsieur Ben Saada. Si pour ceux et celles qui sont à l'écoute, j'espère que vous avez écouté Monsieur Ben Saada nous parler du bonheur qu'il éprouve en visitant le petit Maghreb. Si vous n'avez pas eu la chance de le faire aujourd'hui, j'espère que vous allez être au rendez-vous avec nous l'année prochaine, à la même période certainement. Monsieur Ben Saada, un dernier mot peut-être ?
Alors merci beaucoup et bonne fête et longue vie surtout au souk et au petit Maghreb.
Merci beaucoup, merci, Monsieur Ben Saada. Alors, nous allons marquer une autre pause musicale et on vous retrouve tout de suite après.
طريف مزعبل مالو في الملح تاني طريف مزعبل مالو في الملح تاني طريف مزعبل يوصلوا يبخل يوصلوا يبخل ويرضى بالجراني يوصلوا يبخل ويرضى بالجراني يوصلوا يبخل علاش يا معذب قلبي وعلاش العدا والناس هم نرغبوا وشدة في الله هذه ساعة هنية استغفر الله هذه ساعة هنية والحمد لله من العاتق الحمار ملا وناول من الخمر العاتق الحمار ملا وناول الزهر كلل الزهر كلل الورد الشريق الحمار الزهر كلل الورد الشارق الحمار صاروا كله يا مزعب في قيا مزعب انظر للرياض الصغار في قيا مزعب انظر للرياض الصغار في قيا مزعب علاش يا معذب قلبي وعلاش وعلاش في فيا العدا والناس قوم نرغب الله الشدة في الله هذه ساعة هنية صافي الله هذه ساعة هنية والحمد لله يا العذرا وين وليك أنا خبو وين دارك وين علوانا والبشافو والضحي عنك سنوضي بالكتاب سلبتي الفكار يا لالا
Bienvenue à cette émission spéciale organisée donc, par l'ensemble des émissions algériennes sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et bien, nous sommes au souk. L'ambiance, elle est extraordinaire. Morad, l'ambiance est là.
L'ambiance est là. On est au coin Jean Talon et Musset, au café Le Saphir. Alors, au bout là-bas, c'est une scène, c'est Azdil Maghrabi qui est avec son mandol, avec Derbouka, l'ambiance au bout, à la rue, je pense, à quel niveau de la 14e, je pense.
Exactement,
14e. Et juste derrière nous, enfin, il y a la tente tunisienne un peu plus loin, mais je dirais la tente tunisienne est vide. Il faut le signaler, c'est important, oui. La tente tunisienne est vide. Et un peu plus loin, la tente algérienne est pas mal achalandée. Et notre ami Belhabed qui était là, il est là-bas pour son petit café littéraire. Et juste derrière moi, c'est la Issaoua dans la tente marocaine qui sont en train d'animer. Il y a même une gaffa, il y a une scène de mariage qui est sur place. Et je vous dis, l'ambiance, il est à son comble. Il n'y a plus, c'est plein, les merguez, ça va.
Une ambiance qui nous rappelle tout ce qui se passe dans nos souks, en Algérie et au Maroc et en Tunisie. Eh bien, bien sûr, nous avons plusieurs invités, on a reçu plusieurs invités. Je pense qu'on va prendre une petite pause musicale et après on va revenir avec nos invités.
طريف مزعبل مالو في الملح تاني طريف مزعبل مالو في الملح تاني طريف مزعبل.
On vient à notre émission. Tout à l'heure, nous avons reçu M. Ziani Mouloud qui a parlé de la problématique du nom du Petit Maghreb. Rapidement, on va parler avec le vice-président de l'association, M. Nasser Boudi. Il y a une certaine association de la communauté qui remet en cause le nom Petit Maghreb. Ils préfèrent l'Afrique du Nord. C'est quoi votre réaction, M. Nasser Boudi, à ça?
Sincèrement, ma réaction,
J'ai entendu parler de cette d'un groupe qui essaye de, c'est-à-dire qui pose. J'ai entendu parler de ce groupe de toute façon qui s'organise pour s'opposer au nom du petit Maghreb. Je peux assumer la responsabilité parce qu'en 2005, c'est de transmettre un message compréhensible pour les Québécois et les Québécoises. La création du petit Maghreb, c'est un appel à notre communauté de se mettre en mode maghrébin. D'autant plus on est devant des institutions qui utilisent plus, qui prennent les Maghrébins comme un groupe culturellement et identitairement, commun. Donc, entre autres, je peux donner des exemples. Il y a la table de concertation de maghrébines, les statistiques, quand ils ont fait l'annonce des statistiques, c'est les statistiques du chômage. Par exemple, un 28%, c'est communauté maghrébine. Je ne vois pas le problème de ces gens. Avoir les raisons de leur opposition directe. C'est quoi les raisons directes?
Monsieur Boudi, est-ce que éventuellement vous seriez d'accord pour changer le nom, pour faire plaisir à ces gens-là, à ceux qui demandent à ce qu'on change de nom de Petit Maghreb à...
La Petite Afrique du Nord.
Quartier Afrique du Nord.
Moi, je n'aime pas cette approche, vous m'excusez, s'il y a des gens qui ont des propositions, qui font du sur quelque chose de... C'est à eux de nous convaincre et je suis prêt
même
à lancer un débat public. On est ouvert à toutes ces suggestions.
Excellent, c'est ce qu'on voulait entendre de votre part.
Je voudrais bien qu'ils comprennent que... notre interaction est vers notre société d'accueil québécoise ici et non je refuse cette façon de transposer les problèmes de là-bas à ici.
Merci beaucoup,
merci beaucoup, monsieur Nasser Boudi. Maintenant,
nous avons l'immense plaisir de recevoir madame l'ambassadeur du Maroc, madame Nouzha Chekrouni. Madame l'ambassadeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez vu sur la rue Jean Talon, toute cette fête maghrébine?
Ben oui, comme vous dites, c'est la fête, donc c'est les retrouvailles d'une grande famille. Je trouve ça super génial. On a besoin, de toute façon, il a fallu simplement de dire venez, que les gens se sont précipités pour être là. Ça renvoie une image d'un ancrage profond, d'une même appartenance, d'une identité partagée, d'une culture partagée. Mais plus que cela peut-être, c'est aussi des perspectives encore à partager.
Bien sûr, vous êtes ambassadrice du royaume du Maroc et nous savons très bien que chaque pays maghrébin doit gérer les ressources de la communauté, mais vous savez très bien que la problématique d'intégration, la problématique de tous les membres de la communauté maghrébine sont communes. Comment pourront aider les chancelleries et les consulats à aussi consolider ces communautés dans un sens maghrébin de façon à ce que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens qui vivent ici au Canada puissent travailler ensemble pour régler leurs problèmes d'intégration?
De toute façon, il est évident que travailler ensemble nous aidera tous à régler, à approcher les problèmes de façon globale. Parce que nous avons les mêmes problèmes, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, nous sommes aussi confrontés aux mêmes défis. Donc, autant que lorsqu'on crée des synergies, on a plus de chances d'abord de réduire les marges d'erreur, mais aussi d'avoir ces approches globales qui aujourd'hui, au 21e siècle, seules ces approches globales, peuvent nous aider à régler les problèmes, mais aussi à construire, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi surtout des choses, des perspectives à construire. Je pense qu'on sera beaucoup plus fort. Nous le faisons déjà à notre niveau. Si aujourd'hui on réussit à voir le petit Maghreb, c'est parce qu'il y a une belle plateforme déjà, c'est parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui est très très fort, très très ancré. Maintenant, nous devrions faire ensemble de sorte à ce qu'on puisse le structurer pour qu'il puisse se greffer sur cette, euh, je parlais de cette appartenance, mais on peut greffer sur cette appartenance, sur cette culture partagée, une façon de voir, une façon structurée, avec des objectifs et avec un timing. Et ça, on peut le faire grâce à l'appui de tous.
Madame l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir honoré de votre présence la communauté maghrébine pour ce souk. Et on espère vous retrouver l'année prochaine, pourquoi pas. Et bonne continuation.
Merci à vous. Merci. Et bonne continuation aussi.
Merci, au revoir. Alors, nous marquons une autre pause musicale et on vous retrouve tout de suite après.
الزهر كلل الورد الشريق الحمار الزهر كلل الورد الشريق الحمار الزهر كلل قيام زعبان في قيام زعبان انظر للرايق الصغار في قيام زعبان انظر للرياض الصغار في قيام وزعب علاش يا معذب قلبي وعلاش وعلاش في فيا العذاب الناس قوم نرغب الله شدة في الله هدي ساعة هنية صافي الله هدي ساعة هنية والحمد لله.
Alors, voilà, nous sommes de retour avec d'autres invités. C'est le défilé continue. Nous avons commencé avec les instigateurs de ce petit souk, de ce grand souk dans le petit Maghreb. C'est réellement un grand souk et ça fait énormément plaisir à voir ce qui se passe à l'extérieur. Si vous avez raté ça cette année, j'espère que vous serez des nôtres l'année prochaine. Alors, après avoir reçu Madame l'ambassadeur du Maroc, Madame Nouzha Chekrouni, nous avons l'immense plaisir de recevoir maintenant Son Excellence l'ambassadeur de Tunisie, Monsieur Mouldi Sakri, et l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur d'Algérie, Monsieur Ismaël Benamara. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu sur la rue Jean Talon aujourd'hui, Excellence Monsieur Sakri?
Merci beaucoup. Nous sommes vraiment honorés aujourd'hui d'être ici dans cette belle et grande manifestation du Grand Maghreb de Montréal. Et nous voulons féliciter tous les organisateurs qui ont eu la belle initiative d'organiser ce rassemblement des Maghrébins au Canada. Nous les félicitons et nous sommes vraiment heureux de constater que la communauté maghrébine avance à grands pas et prend donc la mesure d'une belle intégration tout en gardant bien sûr les valeurs les valeurs partagées par cette communauté dans un milieu ami comme le milieu canadien
de cette magnifique région qu'est le Maghreb. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur Benamara.
Oui, moi je voudrais, si vous permettez tout d'abord, puisque souhaiter à tous vos auditeurs Eid Mubarak, ça ne fait pas longtemps qu'on a fêté la fin du Ramadan. On ne peut que se réjouir de cette initiative qui constitue, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, la première dans le monde pour que notre région ait un quartier dédié à notre communauté maghrébine. C'est un très beau challenge, c'est une très belle initiative. Nous formons le vœu que chaque année elle prendra de l'ampleur. Et comme l'a dit mon ami l'ambassadeur de Tunisie, c'est de faire cette jonction entre nos valeurs de nos pays respectifs, la tolérance, l'ouverture, l'hospitalité, et en tenant compte également des valeurs canadiennes, à savoir cette propension à s'ouvrir sur l'autre. Alors voilà, c'est une très bonne initiative que nous saluons.
Merci beaucoup, Monsieur Ben Amara. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Et on espère bien sûr vous retrouver l'année prochaine à la même période, Inch'Allah. À sa fin, après avoir reçu les différents organisateurs de cette superbe fête du petit Maghreb, et après avoir reçu aussi les ambassadeurs de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, nous avons l'immense plaisir de recevoir cette fois-ci Monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal. Monsieur Tremblay, bonjour.
Oui, bonjour. Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Ça commence bien. Hein, ça. Monsieur Tremblay, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous êtes en train de vivre sur la rue Jean Talon dans le quartier de Saint-Michel?
Alors, je ne le vis pas juste sur la rue Jean Talon. Vous savez que Montréal, c'est une ville où on a le plus grand nombre de consuls au Canada, donc 90 consuls, et les ambassadeurs, surtout les ambassadeurs du Maroc, l'Algérie, de la Tunisie, se font toujours un honneur de venir, notamment pour des rencontres importantes. Aujourd'hui, on a une rencontre importante. On parle beaucoup de la diversité culturelle. Comme vous le savez, je suis vice-président de l'Association internationale des maires francophones, et pour la première fois, on a fait une rencontre en Tunisie, donc à Tunis, avec l'Association des villes arabes. C'était la première fois. Alors, même à l'international, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est le vivre chez nous. Et cette diversité culturelle est enrichie, notamment par les nouveaux arrivants qui nous viennent de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Donc, quand on parle là, du marché du Petit Maghreb, c'est une occasion unique pour les Montréalaises et les Montréalais de vivre une culture, de partager avec les trois pays que j'ai mentionnés, justement, ce que nous avons en commun. Et le fait qu'on puisse vivre la culture, vivre notre diversité, ça enrichit Montréal, c'est réellement la force de Montréal et notre avenir individuel et collectif.
Monsieur Tremblay, vous êtes en pleine campagne électorale. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec tous les événements que vous avez vécu ces dernières semaines et ces derniers mois, comment se présentent ces élections?
Bien, on le voit quand je rencontre les trois communautés, là, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Moi, je pense que ça va bien. Les gens sont contents de me voir. Les enfants viennent me voir. C'est ça, la vie familiale. La politique, c'est une grande famille. Et le fait qu'on puisse côtoyer des personnes qui aiment profondément Montréal, qui ont toujours une attache, certes, avec leur pays d'origine, mais qui se disent maintenant, nous sommes citoyennes et citoyens à part entière de Montréal. Et pour moi, c'est ça qui est important. Une rétroaction immédiate quand je rencontre les citoyens et citoyennes. Puis aujourd'hui, bien, je pense que c'est une occasion unique.
Monsieur Tremblay, le Maghreb est le premier partenaire du Québec en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La ville de Montréal a beaucoup d'intérêt à développer des relations bilatérales avec le Maghreb. Comment la ville de Montréal pourra exploiter les compétences maghrébines qui connaissent très bien le marché maghrébin, qui ont travaillé dans les grandes entreprises, même dans les municipalités maghrébines, pour pouvoir entreprendre de bonnes relations avec le Maghreb?
On le fait avec les maires. Dans le passé, c'était surtout les États. Mais ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que la société d'accueil, ce sont des villes. Alors, par l'Association internationale des villes francophones, par l'Association des villes arabes, nous sommes rencontrés. On a appris à mieux se connaître et partant de là, on a des échanges qui sont à plusieurs niveaux. Au niveau culturel, certes, au niveau éducatif, mais ce qu'on s'aperçoit de plus en plus au niveau des affaires. Alors, quand on a des créneaux d'excellence, comme par exemple l'aérospatial, les sciences de la vie, les technologies de l'information, le cinéma, les technologies propres et bientôt les secteurs financiers, s'aperçoit qu'on a besoin de personnes qui sont compétentes, des personnes qui ont des métiers et qui peuvent immédiatement nous aider à accélérer le développement de la métropole. Et ça, c'est très important. Donc, les trois pays là, du Maghreb sont réellement là, des personnes qui sont prêtes à intégrer immédiatement notre marché du travail et de nous démontrer hors de tout doute qu'ils sont des créateurs de richesses.
Monsieur Tremblay, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Vos collaborateurs sont en train de gesticuler derrière vous. Apparemment,
mais c'est pas grave.
Vous avez un programme chargé.
D'ailleurs, celui qui gesticule le plus, là, il s'appelle Aziz Taïf. Il est marocain. C'est mon compagnon de route, mettons, depuis les 8 dernières années. Puis, je peux vous dire choukran.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne continuation et bonne chance pour ces élections.
Très bien. Merci beaucoup.
Alors,
on y va en pause publicitaire
non,
ou
Non, c'est. Je pense que c'est pratiquement la fin de l'émission. Donc,
on vient de nous annoncer que le maire, M. Gérald Tremblay, a fait le Ramadan cette année. On voudrait vraiment avoir un commentaire sur ça.
Ah, je vais faire plus qu'un commentaire parce que pour moi, le Ramadan, c'est le partage, c'est la générosité, c'est un moment de recueillement qui est essentiel pour qu'on puisse réaliser que dans la vie, si on veut l'harmonie ou la paix de façon plus générale, il faut avoir le respect de l'intégrité de l'être humain, donc l'accueil, mais il faut surtout avoir la justice sociale, un meilleur partage de ce que nous avons individuellement et collectivement. Alors le Ramadan, c'est une occasion unique là, pour nous rappeler ce que nous sommes et qu'on vit dans un pays, même à Montréal, dans une ville où il y a de plus en plus de démunis de la société. Puis je voudrais ajouter que c'est pas fini, parce que il paraît que quand on fait le jeûne 3 jours ou 7 jours plus long, on le fait pour toute l'année. Alors, je suis rendu dans ma 7e journée après le Ramadan. Je trouve ça exceptionnel. C'est ma spiritualité. Puis si je peux réussir ce que je fais en politique, c'est parce qu'à tous les jours, il y a personne qui m'accompagne. Alors, je veux vous dire Inch'Allah, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on vit. Puis, attendez, je vais vous le dire, Eid Moubarak Saïd, Kul Sana Wantu Taïbin.
Merci. On est impressionnés.
C'était le mot de la fin, F-A-I-M.
Merci
Monsieur Tremblay. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà, notre émission
arrive à la fin.
J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, qui l'ont produite. Morad Mhamli, qui est derrière l'organisation justement de cette
Je tiens à le remercier pour cette initiative. En fin de compte, c'est l'initiateur aussi de cette idée de faire cette émission à trois.
Exactement, Morad, oui.
Et ça fait plaisir, et puis le plaisir est partagé. On a intérêt à se revoir.
Eh bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Morad. J'aimerais aussi remercier le propriétaire du café... le Safir Hammou Beshirigi, grâce à qui, bien sûr, on a pu nous installer ici pour enregistrer l'émission de ce soir. Et merci beaucoup, bien sûr, à Lamine qui était avec moi.
Et merci aussi à Issa.
Yatek Saha. Et puis, moi, j'aimerais finir avec quelque chose de superbe. C'est un ami d'Alger qui m'a envoyé un message texte pour me souhaiter un Eid Moubarak. J'en profite pour le saluer. C'est Wahib Sakhri. Il m'a envoyé un Eid Moubarak avec un message texte. Je vous le lis. « Ya nismet l'Eid, zorehum, wa alil khed bousehum, ou bel ward rushehum, ou b'Eid al-Fitr, hennehum. » Et quand j'ai appelé mon ami Wahib pour lui dire que c'était extraordinaire de me souhaiter l'Aïd de cette façon, avec une boukala, eh bien, il m'a dit que c'était la façon de l'marhoum al-Hajj al-Hashmi Grouabi de souhaiter un Eid Moubarak. Avec ça, c'est sa création. Rabbi Rahmou Yousali.
Yatek Saha Issa.
Merci. Et donc, on se retrouve
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.